Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile, la bulle.
C'est la bulle immobilière.
Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Comment ça va, Michael?
Ça va super bien, Jeff. Et toi?
Hey, j'ai failli me tromper, puis je suis vraiment content. Mais une chose que c'est sûr que maintenant je me trompe plus, c'est sur ton nom de famille, Faleschini. Je pense que je suis rendu un pro à ce niveau-là.
Absolument.
Comment ça se passe pour toi, Michael?
Écoute, c'est sûr qu'on a de la broue dans le toupette. En ce moment, on est dans les grosses saisons de location, donc une énorme quantité d'appartements à louer, beaucoup de demandes, donc on est vraiment là-dedans en ce moment. Écoute, autant dans le neuf que dans le vieux, il y a beaucoup de demandes, donc on a de la broue dans le toupette.
C'est cool ça, puis tu sais, justement, quand tu dis que t'as de la broue dans le toupette, là, c'est que tu me textes hier soir, quasiment minuit ou moins quart, pour me dire « Hey Jeff, j'ai telle affaire », puis moi je fais comme hey, « moi aussi je suis dans le jus ».
Je sais que tu te couches à 2h du matin, fait que je me suis permis de pouvoir te texter à minuit. Là, c'est
ouais,
ça,
c'est ça, puis arrive le moment que je me couche à 2h, mais le moment je me lève à 4h30 aussi, pareil, là, fait que tu sais, des fois ça fait des nuits un peu plus courtes. Effectivement que le marché est en feu, la location est en feu, l'immobilier, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, est en feu. On a eu une formation récemment qui mentionnait là, que dans les d'ici 2030, pour la province de Québec, il allait manquer à peu près entre 800 et 1 million de logements. C'est quand même fou, là. On parle là, pas juste de logements, on parle de logements locatifs, condos locatifs, etc. On parle de résidences pour personnes âgées, de maisons unifamiliales, deux étages, un étage, multifamilial, faible densité, haute densité. Écoute, il va en avoir de l'immobilier. Puis j'ai écouté notre invité là, qu'on va avoir, Luc Poirier, avec le réseau immobilier. Puis justement, il mentionnait un élément qui disait, écoutez, arrêtez de chialer comme de quoi que les prix de loyer sont élevés. Il dit, tu sais, moi, quand j'ai eu 14 ans, il dit, j'ai compris un concept qui était l'offre et la demande. Fait que si il y a plus de logements, tu sais, que de demandes, ben ça va faire en sorte que les prix vont diminuer. Fait que si vous voulez contrôler ça, faites donc, genre, le premier pas à donner un coup de main aux promoteurs pour qu'ils puissent construire plus facilement des unités à coût abordable, puis donnez-y des programmes qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir le construire. Puis là, Denis Coderre qui était là aussi, puis t'es comme « Yeah! » Pour moi, il va revenir, lui, à Ville de Montréal, là, parce qu'il était comme « Yeah! » Il y a quelqu'un qui vient mentionner ça. Mais c'est le fun d'avoir ces discours-là, puis d'avoir ces gens-là. Puis dans la formation qu'on avait, il disait aussi que depuis 2015, c'est vendu quasi 90 000 propriétés à toutes les années. Dans la région de Québec, c'est à peu près 9 000. Qui a fait en sorte que, oui, il y a eu deux années de pandémie où ça en est vendu 120 000. Ça, c'est des contextes de marché extraordinaires qui a fait en sorte que c'est là. Fait que, tu sais, si c'est vendu en 2015, 90 000 propriétés, en 2023 puis 2024, c'est vendu 90 000 propriétés ou il va se vendre 90 000 propriétés. Fait que, tu sais, l'immobilier ne sera pas sur le chômage, selon moi, en 2024. Puis, aujourd'hui, on reçoit Maxime Buteau, qui est un ami, qui est une connaissance, qui est des gens avec qui... qui est une personne avec qui j'ai fait des processus transactionnels vraiment vraiment le fun. Puis, tu sais, on grandit toujours à toutes les fois qu'on fait des transactions. Il y a différentes situations qui nous amènent à grandir, à avoir des pistes de solutions différentes qu'on n'aurait pas pensé. Des analyses de projets aussi avec des investisseurs ou des promoteurs externes qui, eux, ont une vision complémentaire puis différente de qu'est-ce que nous, on peut avoir. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ces challenges-là. Puis c'est toi qui nous l'invite aussi. C'est Maxime Buteau, investisseur de chez Marmax et gestion immobilière Marmax. C'est quoi ton histoire avec Maxime?
Ben écoute, Maxime, moi, ça fait quelques années qu'on se connaît. On l'a accompagné là, dans la mise en marché, gestion de certains de ses projets au courant des dernières années. Puis là, tu parlais d'entrée de jeu, justement, là, du besoin en logement. Mais là, c'est le fun. Aujourd'hui, on reçoit un gars qui en a bâti du logement, qui en a bâti. Puis je pense qu'il va en bâtir d'autres avec les projets qu'il y a sur la table à dessin actuellement. Donc, salut Maxime, bienvenue à l'émission. Comment ça va?
Très bien, merci de m'inviter.
Yes sir. Écoute, d'entrée de jeu, tu veux-tu nous parler un petit peu de c'est qui Maxime Buteau? C'est quoi un peu ton parcours en lien avec l'immobilier puis en général? Oui.
Dans le fond, moi, j'ai fondé mon entreprise de rénovation en 2010 qui s'appelle Rénovation Marmax Incorporée. Avec les années, c'est devenu juste Marmax Incorporé parce qu'on a eu un petit pépin avec une entreprise qui nous a copié. Fait qu'il existe deux Marmax dans la région de Québec. Fait que c'est bien important de le citer. En 2010, on a fondé Rénovation Marmax, moi avec mon frère aîné Martin Buteau. L'idée de base provenait de Martin. Il est arrivé un matin, il dit « Moi, je me pars en construction. » On veut une belle entreprise de rénovation. On entend souvent les gens dans notre milieu dire qu'il manque de bons rénovateurs. Fait que du jour au lendemain, il m'arrive avec ça. J'ai dit « Parfait, j'embarque. » Ça s'est décidé à peu près en 15 secondes pour de vrai. Fait qu'en 2010, on a starté. On était tous les deux. Puis dès les premières semaines, on s'est engagé menuisier, quelques charpentiers d'expérience, des gens qui sortent de l'école. Puis dès la deuxième année, on a fondé une division toiture résidentielle commerciale. Donc, au fil des années, là, jusqu'en 2016-2017, là, on faisait autant de rénovation, de la construction résidentielle, de la construction industrielle. On a fait dépanneurs couche-tard, on a fait plusieurs, on a fait des restaurants, usines, on a fait des contrats publics aussi. On a fait de la rénovation d'écoles, rénovation de toitures d'écoles. On a fait des contrats pour le ministère du Transport. Et puis, avec les années, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la personne qui faisait le plus d'argent quand on faisait un contrat de construction, c'était toujours le client, toujours la personne qui possède le bien immobilier. Parce qu'avec les années, exemple, tu rénoves une salle de bain, tu rénoves une cuisine, deux ans après, le marché, il prend de la valeur, la maison est à jour, bien, elle fait de la belle argent. Toi, oui, sur ton contrat, tu fais un petit peu d'argent, mais quand tu te rends compte que finalement, le propriétaire du bien immobilier, c'est toujours lui qui est gagnant, bien, à un moment donné, tu remets tout ça en question. Puis en 2016, on montait des structures pour des clients, pour des 18, des 16, des 32, puis on a pris goût à ça. Fait qu'on s'est trempé dans l'immobilier là, à ce moment-là. En 2016, là, on a acheté notre premier terrain là, pour bâtir un 12 logements à Lévis. C'est là que l'aventure là, du immobilière a réellement commencé. Évidemment, on a commencé à petite échelle. Là, on a bâti des 6, des 12, des 32. Puis en 2020, c'est là qu'on a commencé, entre parenthèses, à ouvrir la machine. On a bâti un 96 portes à Saint-Nicolas. En 18 mois pendant la pandémie. Fait que les 18 mois de pandémie, ben, on a construit un 100 logements. Fait que le timing était assez bon. Ça a amené des beaux défis.
Pour y avoir participé, le Rosemary, là, ça a été tout un succès au point de vue de l'intégration de ce projet-là dans le marché, le branding. Il y a vraiment eu une grosse demande. Là, puis on en parlait dans la pré-entrevue, les loyers depuis ce temps-là ont tellement monté. Mais même à l'époque, ça a été un succès là, quand vous avez bâti le Rosemary.
Ah, vraiment, le Rosemary, là, tantôt on va peut-être en reparler, mais des coups de circuit dans une carrière, le Rosemary, ça en est un. Quand tu pars ton entreprise, tu dis toujours ça prend des coups de circuit, mais ça arrive comme jamais. Mais la journée que tu en frappes un, tu es vraiment content. Puis le Rosemary, c'en est un. On est arrivé avec le bon produit, au bon moment, au bon endroit, avec une mise en marché qui était vraiment, vraiment impeccable, avec une image de marque qui reflétait vraiment le produit. Puis en même temps, on avait une équipe de location qui était toi à l'époque, qui était vraiment une machine de course. Tous les éléments étaient là pour faire vraiment un coup de circuit. Puis le Rosemary est un coup de circuit, puis il va toujours le demeurer.
Super, super. Écoute.
Puis tu sais, dans cette histoire-là aussi, puis moi, il faut que je le dise aussi, là. Tu sais, je connais Maxime depuis son très jeune âge.
Tu l'as coaché au badminton, je pense.
Yes, sir!
À Marcel Mallette.
Puis, tu sais, c'était les premières années où ce que les gars étaient acceptés, puis tu fais partie de cette cohorte-là.
Oui, la première année, je suis rentré, on était 9, puis on était 4 de Saint-Henri, puis dans les 4 de Saint-Henri, on s'était pas parlé, on se connaissait pas. Fait qu'on est arrivé, 4 gars sur 9 de Saint-Henri, on est là, puis il y avait 500 filles, puis OK, c'est là que ça se passe.
Puis écoute, moi, que ma première expérience de coaching, tu sais, dans une école externe, c'était l'école Marcel Mallette. J'avais 17 ans, j'allais tourner 18, là. Puis j'arrive là avec mon sac de raquettes, genre, puis écoute, 17 ans, j'ai l'air d'un étudiant de secondaire 5, là, tu sais, j'ai pas l'air même plus vieux. J'arrive avec mon sac de raquettes, j'arrive, je rentre dans l'école, puis je me fais recevoir par madame, je me rappelle pas c'était quoi son nom, mais oui. Écoute, pour vrai, t'es qui, toi? Tu fais quoi ici? T'as pas d'affaires ici? Puis là, j'ai comme, écoutez, madame, j'ai été engagé par l'école. Puis ça a pris quasiment 3 semaines, tu sais. C'est tout juste si elle a pas regardé mes empreintes digitales, appelé le service de police.
Je pense qu'elle l'a fait, mais elle l'a pas dit. Parce que je sais qui tu parles, là, puis non, elle est solide, madame-là.
Ça a été vraiment, vraiment drôle. Puis ça a été mes premières expériences. Puis tu sais, mes athlètes, à l'époque, moi, j'en avais 17, 18. Mes athlètes en avaient 14, 15.
Et tu es en train de dire que Maxime, ça a déjà été un athlète?
100%. Puis ça a été un bon athlète, puis tu sais, il est encore en shape. Là.
Il est pas pire.
Il est pas en forme un peu boulique comme moi un peu, là. Mais écoute, mais pour vrai, ça a été des expériences vraiment le fun. Je suis parti dans l'Ouest canadien, puis tu as fait partie de cette cohorte-là. Il m'avait fait des gros cartons, avait mis ça sur mon char, hey, bon voyage, nanana, puis tout. Fait que j'avais trouvé ça vraiment très cool. C'est des moments marquants, des fois, que tu retrouves ces gens-là, puis tu sais, on avait eu l'opportunité de se croiser dans des réseautages, puis on a dit, écoute, on va aller déjeuner ensemble, on va aller voir. Puis je m'avais assis avec Maxime, on avait parlé d'une couple de dossiers, puis ça avait été vraiment très cool. Fait que le Rosemary arrive dans vos cartons aux environs de 2021, ouais. Tu disais.
On a commencé à développer le projet fin 2018, début 2019, temps de finaliser le montage financier, les plans, tout ça, puis on l'a mis en production fin novembre 2019, puis on l'a réellement construit là 2020-2021. Fait qu'évidemment, bon, en mars 2021, on se souvient là, que le gouvernement a fermé les chantiers. Fait que ça a amené quelques défis. La phase 3 était 100% louée, puis il nous restait 9 semaines pour le bâtir, il n'y avait pas de fondation. Puis on l'a livré 3 jours, même avec 3 jours
d'avance.
Pas de déficience, rien. On a vraiment fait une belle histoire à succès avec ça. Puis après le Rosemary, on a fait évidemment les phases 4, 5, 6 en 2020-2021. Puis après ça, après le Rosemary, on a pris quelques mois de pause pour finaliser le prochain projet. Parce que développer des projets, des fois, on pense que on va trouver un terrain, puis dans un mois, on est prêt à partir, mais ça prend des années en réalité. Là. Fait que faut que tu aies une vision vraiment à long terme. Parce que la journée que tu trouves ton terrain, t'as une idée du projet fini, bien souvent, il va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, les prix vont évoluer, le marché va évoluer.
La ville va changer aussi de direction.
Oui, parce qu'on l'a connu dans le dossier du Clémence. La ville, au début, nous, c'était des terrains pour des 64 portes, 3 fois 64 portes, puis finalement, entre l'offre d'achat, de négocier les dernières clauses et acheter le terrain, bien on est parti de 3 fois 64 portes à 3 fois 40. Fait que, tu sais, évidemment, t'as pas le même projet. Puis, en 3 fois 64 portes, quand on négociait le terrain, on avait déjà les plans, on était prêt à partir en production. Fait que là, quand on a eu la mauvaise nouvelle en décembre, ben, OK, là, c'est rendu 3 fois 40. Ben, évidemment, le prix du terrain a changé. Il fallait retourner à table à dessin. Fait que, tu sais, au final, entre le jour 1 qu'on a trouvé le terrain et qu'on a commencé à bâtir, c'est passé 3 ans. Là. Fait que,
donc, entre le moment où ton projet a changé, tu n'avais pas encore acheté le terrain, tu étais toujours en offre acceptée, donc ça t'a permis d'aller renégocier. Là.
Absolument, okay. Absolument. Puis une chance.
Ouais, parce que sinon, tu aurais payé le prix de 64 portes pour les terrains, puis là, tu aurais pu en faire 40, ça aurait été...
Ça aurait été quand même catastrophique au jour 1, malgré que il y a tellement de belles rentabilités en immobilier que on aurait fini par compenser, mais ça reste que ça a un impact majeur, là, le coût de terrain par porte, là, surtout dans des projets de construction neuve comme on fait.
Puis tu sais, dans des discussions qu'on a déjà eues externes là, par rapport à différents dossiers, tu avais mentionné justement que tu as décidé, toi et ton frère, ben vous avez décidé ensemble de leaner la business, là, tu sais, parce qu'au début, tu avais Rénovation Marmax, tu avais plusieurs équipes de travail, tu avais plusieurs projets qui arrivaient, puis après ça arrive un point où ce que tu dis, écoute, dans notre situation actuelle, dans notre vision d'affaires, c'est peut-être pas là qu'on veut aller à gérer autant de personnes à l'externe. Fait que, tu sais, vous avez pris la décision de couper quasi 100% l'équipe, d'avoir des partenaires externes pour différents dossiers, des partenaires de construction, etc. Mais t'sais, vous n'êtes pas une entreprise où vous avez 100 employés en arrière. Là. Fait que vous gérez ça vraiment très lean en arrière. Là.
Exactement. Ça, dans le fond, ça a été la plus belle décision. Parce qu'à un moment donné, en 2011, 2012, 2013, à un moment donné, tu montes à 20 gars, tu as des couvreurs, tu as des menuisiers. Puis à un moment donné, tu as un boom d'ouvrage, tu as 35 gars gérés. Fait que la gestion des contrats et de ces gens-là t'amène à être une... Ben, pas une victime, mais être quasiment un esclave de ton entreprise parce que faut que tu donnes pour amener de l'ouvrage à ces gens-là, faut que tu les coordonnes, puis tu n'as pas le temps de développer un projet, prendre des bonnes décisions parce que tu es toujours dans « Ah, je vais aller porter des matériaux là, je vais aller signer un contrat. » Tu es toujours un peu à course puis super occupé.
Pris dans les opérations.
Pris dans les opérations courantes, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, si on veut vraiment s'en aller ailleurs, vraiment se développer, faire de l'argent, parce que c'est le but, évidemment, d'avoir une entreprise, c'est de faire de l'argent, faut prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment prendre le temps de prendre les bonnes décisions, c'est le nerf de la guerre. Dire que dans ta semaine, ta job, c'est de prendre des bonnes décisions, ça a l'air niaiseux dit de même, mais dans la réalité du quotidien des entrepreneurs, personne n'a le temps. Mais nous autres, on a décidé de se donner ce luxe-là. Fait que pour faire ça, ce qu'on a dit, c'est que ça prend zéro employé. Zéro, 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 zéro. On a vraiment éclairé tout le monde. On a changé le modèle d'affaires au complet. Tout le monde est des sous-traitants. On a des bons partenaires, on a des bons sous-traitants, des bonnes équipes. Nous, avec nos années antérieures de rénovation de construction, on a appris à vraiment bien déterminer les temps aussi des sous-traitants. Fait que quand tu arrives pour sélectionner un partenaire, ben tu connais son staff, tu sais la cadence que tu as besoin, mettons, sur le chantier pour livrer. Fait que c'est facile de bien sélectionner. Fait qu'au final, tu es juste gagnant parce que tu as le temps de bien gérer ce qui s'en vient. Puis en 2018-2019, quand on a fait la transition, ben au jour 1, c'est stressant parce que là, tu as tous tes équipements, tu vends tout ton stock. Après ça, tu te ramasses, ben OK, tu as ton ordi, puis ton stylo, puis ta tête. Là. Fait que tu n'as plus d'outils. Fait que c'est stressant, mais après quelques mois, un an, deux ans, tu te rends compte que c'est la meilleure décision d'une vie. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on a vraiment pris un envol en immobilier depuis ce temps-là.
Ben, c'est intéressant. Ce que je retiens beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que toi, tu as pris le pas de recul de dire... Je veux prendre du temps pour réfléchir.
Oui, oui.
C'est pas grands entrepreneurs qui font ça parce que souvent on est pris justement dans, comme je dis, dans les opérations, dans les décisions, dans le brouhaha. Puis de dire, hey, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je fais, tout ça. Dans ton cas, ça a été en disant maintenant c'est zéro employé, mais oui. c'est super intéressant là, cet aspect-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus faire en tant qu'entrepreneur là, en général. Là.
Ah oui, puis tu sais, en tant qu'entrepreneur, là, écoute, on a envie des défis, là, la gestion des équipes. Au début, tu as une équipe de 4 personnes, après ça, tu as une équipe de 15, après ça, tu as une équipe de 20, puis tu as des grosses périodes, tu disais 35, mais c'est pas la même équipe, c'est pas la même gestion, c'est pas les mêmes défis. Tu sais, le défi que ton employé ne rentre pas le lundi matin, là, ça va arriver. T'en as 3 ou t'en as 35, là, ça va toujours arriver pareil. C'est toujours le même problème que tu vas gérer par rapport à ça. Sauf que la cohésion de groupe, la cohésion des chantiers, etc., ça devient un méchant défi de faire ça. Puis tu sais, de prendre le pas de recul. Puis tu sais, souvent, on va dire ah, on veut viser la croissance, on veut viser la croissance. Puis la croissance, tu sais, souvent, on a toujours. Le premier réflexe de dire il faut rentrer plus de volume. Puis tu sais, pareil comme nous, comme courtier immobilier, tu sais, il vient qu'à un moment donné, c'est que si on veut augmenter nos performances, il y a seulement 3 façons de faire. Soit qu'on fait plus de volume, soit qu'on vend des propriétés plus chères, ou soit qu'on facture plus cher. Parce que tu sais, si tu factures pas cher, que tu fais pas plus de volume, ça marchera pas. Tu sais, il va falloir que tu joues sur tes métriques pour réussir à performer. Puis dans toutes les entreprises, c'est un peu ça. T'sais, il va falloir augmenter le volume, augmenter le nombre de soumissions, le nombre de projets livrés, etc. Puis de prendre ce pas de recul-là, t'sais, c'est un courage quand même assez impressionnant là, t'sais, de dire, écoute, on fait un step back, puis sais-tu quoi, on va avoir des meilleurs résultats. Puis au final, t'sais, on va générer, t'sais, on va être le général de nos projets quand même. On va sous-contracter les gens, sauf que d'un autre côté, on n'a plus de gestion du payroll. Puis t'sais, en même temps, je veux pas être plate, là, mais... Tu sais, quand l'électricien et son gars ne rentrent pas le lundi matin, là, ben toi, à titre de client, ça devient crifement plus facile de dire « Hey, c'est-tu quoi, je m'en crif. La job, faut qu'elle se fasse pareil.
Mm-hmm. » Exact.
Tandis que quand tu as les deux pieds dedans, là, c'est toi qui prends ton temps pour aller remplacer ton employé manquant. Puis, tu sais, c'est un game changer incroyable. Oui. Tu me confirmes?
Ben oui. Tout part de là.
Puis, écoutez, premier segment, premier 15 minutes, ça passe vite. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière. La Bulle immobilière est diffusée tous les samedis à l'Alternative Radio. Vous avez manqué notre émission, c'est pas grave. Écoutez-le sur Google Podcast, Balados et Apple Podcast.
CJMD, c'est la station, pas pour les doux.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, oui, ils veulent acheter ton bloc.
Pas attendre. Amenez votre feuille. Trop de temps.
Téléchargez l'application Google Play, Apple Store.
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, c'est super simple. Vous devez avoir un site web.
Absolument. Groupemercini.com, c'est un site web en fait qui présente principalement autant nos projets neufs qu'on a alloués sur plan que les appartements qu'on a alloués dans tout le parc en gestion. Fait que c'est vraiment une plateforme qu'on met de l'avant là, pour mettre de l'avant les appartements de nos clients.
Puis, toi et moi, on est administrateur du réseau immobilier qui fait en sorte que on va avoir le colloque en 2024, février 2024, avec Luc Poirier. J'en ai parlé un peu d'entrée de jeu. Je disais aussi, hors d'onde, que c'est un gars qui a des opinions très tranchées. Ça l'amène plein d'activités sur les réseaux sociaux. Puis, je l'avais écouté justement sur... tout le monde en parle, puis tu sais, j'avais trouvé quand même ces interventions vraiment intéressantes. Mais encore plus, vous voulez savoir comment s'inscrire pour le colloque, c'est super simple, réseauimmobilier.org. Si jamais vous désirez venir au déjeuner conférence, venir faire des visites d'usine, parce qu'on fait des visites d'usine, on parle d'un voyage à l'international aussi avec une gang de crinqués pour aller voir l'architecture, aller voir des projets dans d'autres villes aussi. Puis pour moi, il y a des gens là-bas qui vont fumer un petit joint là en s'en allant dans ce voyage-là. Il y a beaucoup d'activités qui sont mises de l'avant justement pour réseauter en immobilier, parler avec des investisseurs, puis avoir du fun aussi. Puis c'est une des choses que le réseau fait très bien. On est aujourd'hui avec Maxime Buteau, investisseur de chez Marmax, gestion immobilière Marmax. On parlait d'entrée de jeu que vous aviez une grosse équipe qui finalement, une décision se prend où ce que vous devenez seulement les deux co-actionnaires de l'entreprise, puis vous gérez vos projets, mais vous gérez des grands projets aussi. Fait que, tu sais, moi, une des choses qui est importante ou que j'aimerais te poser comme question, c'est quoi ton quotidien, tu sais, maintenant que tu as juste un portable puis un crayon puis d'outils, là, ça se passe comment?
Bien, mon quotidien est assez facile. Dans le fond, la première affaire que je fais le matin de 8h à 9h30 à peu près, c'est vraiment... gérer les appels d'offres, aller chercher donner les contrôles aux sous-traitants, choisir les bons sous-traitants. Puis là, je parle évidemment quand là, on est en exécution au niveau d'un chantier. Fait que la priorité, c'est vraiment là, quand ton projet est en exécution, c'est de gérer. Donc, tout ce qui est appel d'offres, contrat, horaire de chantier, ça, ça fait partie de mon quotidien du lundi au vendredi. Pour la partie qui est plus micro-gestion, opération de chantier, ça, c'est vraiment mon associé Martin Buteau, mon frère aîné d'ailleurs, qui est le surintendant de chantier. Fait que moi, ma job est vraiment au niveau de la macro des projets. Un coup ça fait, ben après ça, je tombe sur tout screener le marché. Je fais ça 7 jours par semaine. Je regarde autant le résidentiel de la maison, l'unifamilial, que du multilogement, des annonces de location d'unités, de l'industrie à la vente. Fait que je me tiens à jour vraiment à l'année longue, puis dans toutes les sortes de marchés. Fait que ça me permet de, quand il y a une opportunité qui arrive, ben je suis toujours prêt. Fait que c'est facile de... Quelqu'un t'appelle, dit « Bon, j'ai un terrain pour tel produit. Ben, c'est beau, j'arrive. Ben, » étant à jour, ben, c'est facile de voir si le prix a du sens, si tu peux faire de quoi de rentable avec ça, si le projet t'intéresse réellement. Parce que quand j'analyse un nouveau terrain, c'est souvent en 5-6 minutes, c'est réglé. Là. Fait que c'est un peu de même que je top ma journée. Puis après ça, ben, je me garde beaucoup de plages horaires disponibles, surtout en après-midi. On a toujours quelqu'un qui veut venir te voir, te présenter un produit, un nouveau sous-traitant. Il y a toujours un petit quelque chose qui arrive. Fait qu'il faut se garder du temps, justement, pour prendre les bonnes décisions, comme on disait
tantôt. Ça, là, tout le monde, écoutez ça, ce conseil-là. Gardez-vous du temps dans votre agenda. Faites pas comme moi, booker à toutes 15 minutes, esprit, puis faire en sorte que tu vis des vies de fou. J'ai peur de plus en plus mon agenda. Tu sais, on est beaucoup dans le développement des affaires. On veut faire en sorte de faire grandir nos entreprises. Puis, c'est pas vrai que c'est toujours en étant dans l'opération puis dans le feu de l'action qui va faire en sorte que tu vas prendre les bonnes décisions de croissance. C'est un courage incroyable que vous avez pris de passer de votre équipe à deux gestionnaires d'entreprise. Maintenant, vous avez que des sous-contractants, puis vous vivez aussi un peu moins la pression aussi du gars qui rentre pas le lundi matin ou ce que vous devez trouver un remplaçant pour faire ce job-là. Tu sais, quand tu as un sous-traitant, tu demandes à ce que le travail soit fait, que lui, il était supposé d'être trois, c'est à lui de s'organiser pour être trois. Fait que ça t'enlève aussi ce fardeau-là, là.
Ah, exact, ça change. Toute la dynamique est vraiment changée parce que quand on fait l'appel d'offres, on donne un contrat juste temps, on donne des horaires, on donne des cadences. Fait que, d'emblée, il signe le contrat en sachant qu'il y a une job à livrer. Fait que, pour nous, ça enlève quasiment 50 heures de gestion par gestionnaire d'entreprise parce qu'avant, on faisait que ça, gérer des gars qui rentrent pas, des livraisons de matériaux. Là, à ce temps, on est comme un chef d'orchestre, on s'assure de la qualité. Fait que ça change le quotidien vraiment là, au complet.
Puis, tu sais, tu disais qu'une de tes actions est de trouver des terrains, mais les terrains ne poussent plus. Tu sais, il n'y a comme aucun endroit qui n'a quasiment pas déjà été exploité. Si jamais il reste un terrain, c'est soit que le prix est déraisonnable complètement ou soit que c'est un terrain milieu humide, compliqué, aucune construction possible qui fait en sorte que c'est là. Fait que, tu sais, de quelle façon tu es capable de voir le potentiel des terrains? Est-ce que tu es plus dans... sur des terrains déjà construits ou est-ce qu'on a des projets de remplacement? Est-ce que c'est on va plus en périphérie justement pour amener des nouveaux projets? C'est quoi votre vision par rapport à...
Bien, nous autres, dans le fond, au début, les terrains, en 2007, 2008, 2009, on partait avec notre pick-up, on faisait la tournée des quartiers, puis on ciblait des terrains. Puis là, notre premier critère à l'époque pour du multilogement, on se disait, moi, si je bâtis là, je viendrais-tu vivre ici? Fait que ça, c'était comme le premier critère. Puis après ça, on faisait l'analyse du terrain, puis on regardait si ça faisait du sens, les zonages, je le permettais. Puis ça, on a comme commencé avec cette technique-là. Puis quand on a commencé le Rosemary à Saint-Nicolas, bien là, on s'est mis à se faire appeler. Fait que là, on dit, ah, toi, tu bâtis des 100 portes, tout ça. Fait que là, on se faisait appeler. Fait que quand que le volume d'opportunités est assez intéressant, quand tu arrives devant les terrains, bien c'est facile de voir. Bon, ça, je vois le potentiel, même s'il faut que je démolisse, exemple, un aréna avec un entrepôt pour faire du multilogement. Fait que quand tu as beaucoup d'options, bien, ça te permet vraiment de cibler les bons terrains, mais il ne faut pas se fixer de limite. Parce que ce qu'on se rend compte aussi dans la plupart des gens, dès qu'il y a une embûche au jour 1, bien, ah, ça ne marchera pas. Mais c'est pas ça. Non, non, là, c'est un défi à relever. Ce terrain-là, toi, tu viendrais-tu vivre ici? Tu penses-tu qu'il y a 100 familles qui vont venir s'installer là? Bien, si la réponse est oui, après ça, tu as juste des petits défis à régler, puis tu vas l'amener à terme, ton projet. Fait que c'est un peu de même qu'on voit les terrains, puis il y a jamais de... Il y a toujours des défis. Il y a des défis plus grands, plus petits, mais tous les défis sont surmontables. Puis au final, si tu vois réellement ton projet à la fin, comment il va se livrer, puis tu es capable de t'imaginer les gens qui viennent habiter, ben vas-y, puis laisse faire, il n'y a pas de limite. T'sais.
Puis tu sais, pour être capable d'analyser un terrain aussi rapidement, tout ça, il faut que tu en aies analysé des centaines t'sais, dans ton cas.
Exact.
Puis écoute, t'sais, moi j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de... Parce que du moment où tu analyses un terrain, que tu achètes le terrain, puis que tu as une construction, il se passe bien des étapes, il se passe bien du temps, le marché a le temps de changer. Tu peux-tu nous parler un petit peu des étapes du développement d'un projet immobilier, de l'identification du terrain jusqu'à la construction?
Oui. Bien, évidemment, la première étape, quand tu te présentes devant un terrain, exemple, je pense celui qu'on est en train de construire à Bois-Châtel, on arrive devant le terrain, belle vue panoramique sur le fleuve, je plug mon projet en même temps, évidemment, fait que condo locatif leclavance.com. Fait que quand tu arrives devant le terrain, bien là, c'est facile de voir, tu as une belle vue, tu as le site, tout ça. Bon, ça, après 5 minutes, tu as fait le tour de la question, là, tu regardes ton zonage. Ton zonage te permet, comme on disait tantôt, des 64 portes qui ont viré en 40 portes. Un coup que les grandes lignes sont ciblées, ton coût par porte est ciblé, après ça, ça te prend des barèmes. Nous, nos barèmes, ben, c'est du 3,5, 4,5, 5,5 avec des pieds carrés prédéfinis, entre temps et temps. Fait qu'en ayant ça, ben c'est facile de voir un petit peu la grandeur du bâtiment que tu vas avoir à construire versus les marges qui te restent sur ton terrain. Fait qu'au début, tu fais comme, tu prends un fichier Excel tout simplement, tu fais tes grandes lignes, tu vas chercher tes prix, fait que tu te fais comme une tête. Un coup que ça s'est fait, bien évidemment, il faut que tu négocies ton terrain entre-temps parce que tout se fait en même temps, la négociation du prix de terrain, le développement de ton projet dans ta tête sur ton petit fichier Excel.
Donc, tu signes des offres d'achat assez longues, là, tu sais, ou tu extensionnes les délais?
J'extensionne. Moi, je travaille vraiment à l'inverse de tout le monde. Quand je dépose une offre d'achat, je veux toujours l'amener chez le notaire. Ça, c'est important.
Mm-hmm.
Parce qu'on se rend compte dans l'immobilier, là, les gens, on va geler le terrain, on va geler le deal. Puis on checkera après ce qu'on fait avec ça. Moi, j'y vais à l'inverse. J'essaie vraiment de tout analyser, tout penser, tout prévoir, puis d'être tellement confortable avec l'offre d'achat que c'est sûr à 99,9% qu'elle va chez le notaire. Fait que j'essaie de faire ça. Puis ce que ça amène, c'est qu'au début, je suis plus lent que les autres à faire l'offre d'achat. Mais un coup que c'est fait, ça va plus vite. Fait que j'essaie en 30 jours, 45 jours d'amener ça chez le notaire. C'est pas toujours le cas, évidemment, là, mais l'idée, c'est vraiment d'être tellement prêt bien préparé, d'avoir une bonne vision que la seconde partie, un coup de l'offre est acceptée, elle va aller vite chez le notaire. Mais c'est vraiment, quand je développe le projet, tout se fait un peu en même temps dans un délai assez court. Mais il n'y a pas de... Tu sais, la magie se passe à la préparation avant de voir ton terrain. Tu sais, tout se passe pour ça, dans le fond. Il faut vraiment être préparé.
Puis tu sais, il faut dire aussi... qu'entre le moment qu'on fait une offre d'achat puis qu'on arrive chez le notaire, là, il y a tout l'entre-deux aussi qui peut arriver. Tu sais, je suis courtier immobilier, des situations extraordinaires peuvent arriver, les milieux humides, les terrains, les changements de zonage. Écoute, notre terrain qu'on est en train d'acheter, moi, je suis en train de réaliser toutes mes conditions pour le 1er décembre. Le 27 novembre, la Ville envoie un communiqué pour dire la réglementation de ce secteur-là change. J'étais à 3 jours, genre, de finaliser mes trucs.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Puis là, je suis comme, fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis la réalité, c'est que moi, j'ai continué dans le projet, puis j'étais comme, écoute, je vais ajuster le projet en conséquence de la nouvelle réglementation. Ça l'impactait, mais pas tant. Mais il y a tellement de facteurs que nous, on contrôle pas dans le processus transactionnel qui amènent des délais des fois aussi. Puis tu sais, quand c'est expliqué dès le départ de qu'est-ce qui va se passer au niveau des délais, de quelle façon que ça va se gérer, ben les attentes sont gérées, puis après ça, c'est plus facile dans les processus transactionnels. Fait que, tu sais, la transaction arrive, la pré-analyse est déjà faite. Là, tu sais, arrive la soumission des projets, sûrement, ou les sous-contractants, les plans.
Oui, exact. Ben on essaie des fois, ben pas des fois, mais la plupart du temps, on essaie d'avoir quand même un plan préliminaire en même temps que, bon, tu déposes ton offre d'achat, tu t'en vas, tu colles l'architecte. Tu commences les plans. Un coup que tu as les plans pour soumission, là, faut que tu partes en appel d'offres le plus vite possible. Parce que oui, les coûts, on les connaît, on les a vus. Moi, je suis un maniaque de prix de revient. Fait que tous les prix de sous-traitant, je les ramène tout en prix de revient. Fait que j'ai toujours des listes de prix quand même à jour, avec un décalage à peu près plus ou moins 6 mois. Fait que avant de commencer le projet, je compte comment que la job va me revenir. Je mets mes facteurs de sécurité, mais dès que tu es prêt à partir en soumission, il faut que tu partes en soumission. Même si des fois, tu fais 2 rondes de soumission, il y a 6 mois d'écart, c'est pas grave. Faut vraiment aller en soumission le plus vite possible parce que il y a des fois, tu peux avoir une surprise. Exemple, je ne veux pas nommer de nom, mais exemple, les gars de fondation, dans l'année, il y a 2 compagnies, exemple, qui ont fermé, puis là, les prix ont monté de 30%. C'est pas un cas réel, mais c'est un exemple. Fait que, même si tu as budgété 1 million pour ta fondation, mais si finalement tout le monde t'a 1,5 million, 1,3 million, 1,5 million, ben c'est à 500 000 là. Il va
la
pas
mise de fonds supplémentaire.
Ben, exact. Fait que, tu sais, il faut vraiment... on ne sera jamais trop préparé. Ça, c'est clair. Des fois, on a l'impression qu'on travaille un peu trop d'avance, mais non. Il faut vraiment toujours être le prêt le plus tôt possible. Fait que oui, il faut que tu partes en soumission. Même si tu n'as pas le permis, tu pars en soumission, tu commences à négocier. Il faut vraiment tout travailler les éléments en même temps.
Ton financement se fait en parallèle de tout ça aussi.
Ben oui, parce que tu sais, dans tout ça, il faut que tu startes ton proforma aussi pour présenter à la banque, pour avoir déjà un premier jet ou tu sais une ouverture de dossier puis d'analyse bancaire. T'sais, est-ce que les ratios vont faire du sens? Est-ce que les loyers vont être au rendez-vous? Puis, tu sais, tu as une étude de marché aussi à savoir, tu sais, l'offre que tu vas proposer dans le secteur, à combien ça se loue? Parce que ta valeur locative va venir définir ta valeur maximale de construction de projet. Parce qu'après ça, ça sort de tes poches 100%, puis c'est pas ça qu'on veut, là.
Exact, exact. Puis, tu sais, les études de marché, on en paye, on fait faire des rapports de valeur marchande. Tu sais, ça, c'est tout bien beau, mais tous ces gens-là vivent dans le passé. Ça, c'est bien drôle. Puis les banquiers aussi, d'ailleurs, là. Puis ils ont comme pas le choix parce qu'eux autres, ils se basent sur des choses qui existent déjà où ça a été loué, mettons, ce prix-là, il y a un an. Mais nous, on va être là dans 3 ans. Fait que là, quand tu es développeur, là, c'est vraiment de te projeter dans l'avenir puis de vraiment bien interpréter comment que le marché évolue pour dire, bon, mes prix vont être vraiment à ce prix-là. Parce que si tu vas au financement au jour 1 puis ton projet est livré, mettons, dans 24 mois, ben, entre les deux, si ton marché a augmenté de 20 %, ben, tu laisses 20 % sur la table. Fait que, tu sais, au final, tu mets 20 % de mise de fonds de plus. Fait que, là, la game est là. Fait que, tu sais, puis on le sait quand on demande des rapports de valeur marchande ou des études de marché que le comparable il était loué il y a un an. Fait que, tu sais, il y a un bon décalage.
Comment tu fais pour dealer avec ça, justement?
Ben, c'est quand tu es toujours à jour, tu te tiens informé puis tu as la vision de ton projet, c'est là que, faut, comme tu te mets au bat, tu te dis, non, on s'en va là. à ce prix-là, puis c'est de même, ça va finir, puis ça a toujours marché, puis ça a toujours été ça, la clé du succès.
Faut que tu vendes à l'institution financière un peu que oui, tu es capable d'aller chercher ces loyers-là. Là, autant à l'institution que la SCHL là, dans les cas.
Exactement. Puis il faut que tu livres de la marchandise. Nous autres, nos projets qu'on a fait dans le passé, à 100% du temps, on a livré ce qu'on a dit et plus. Fait que c'est facile après ça de dire, tu sais, ton premier projet, tu arrives, exemple, notre premier 12 logements, tu arrives à SCHL, tu dis, ah non, je vais louer à ce prix-là, même si le marché est plus bas. Ben, amène-moi ton CV, moi, j'en ai pas tant, mais là, c'est pas crédible. Mm-hmm. Mais quand tu as des centaines de portes de fête, ben là, c'est plus facile.
Oui, 100%. Puis là, tu sais, on a les soumissions, on a les plans pour construction. La demande de permis est en cours pendant tous ces processus-là. Ouais. Les corrections au plan arrivent, tu sais, puis le back and forth, ville architecte, c'est finalisé parce que ça finit plus.
Exact.
Puis là, ben après ça, quand tu as les plans finaux, tu disais de refaire une deuxième ronde de soumission, ben là, tu viens réajuster les soumissions avec les plans finaux pour être sûr, parce que là, il y a eu des changements, il y a eu des corrections, il y a des divisions qui ont été changées. Tu es prêt à construire. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape?
La prochaine étape, ben, tu établis l'horaire de chantier qui est final, la cadence de chantier. Tu réunis tous tes sous-traitants. Souvent, on fait 2-3 réunions à cause de l'horaire des gens. Fait qu'il faut vraiment établir une séquence, parce qu'un chantier, c'est une roue qui tourne. Ça, les gens, ils pensent que tu appelles le gars de fondation, puis quand il a fini, tu appelles l'autre. Non, c'est vraiment, il faut que tu établisses une roue, une cadence. Exemple, quand tu arrives sur la pose de Jeep, ben, ça me prend 5 unités par semaine qui sont posées, installées, puis ménagent fait. Fait qu'il faut que tu établisses une roue. Puis ça, l'expérience que nous, on a avec tous les projets de construction rénovation a amené que notre roue est tellement serrée que nos chantiers durent en moyenne 20 à 30 % moins longtemps que nos compétiteurs, ce qu'on se rend compte. Puis nos sous-traitants qu'on engage, ben ils nous le disent, vous autres, ça roule au quart de tour, on n'attend pas, ton horaire est précise, puis est toujours crédible. Fait que quand tu me dis que je rentre telle date, ben je rentre telle date. Fait que nos sous-traitants, ils ont confiance. Quand ils arrivent, ça roule bien. Fait que ça permet d'avoir des prix plus compétitifs. Puis tu as un coût de projet qui est plus compétitif. Fait que nous, dans le fond, quand on arrive en exécution, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'horaire. Puis l'horaire, sérieusement, on la sous-estime toujours, mais c'est vraiment le nerf de la guerre là, d'un chantier.
Ah, puis tu sais, quand tu arrives à 100 logements, puis tu dis que ton poseur de gyps doit tirer, doit poser pour 5 logements par jour, par exemple, ou peu importe la métrique que tu prends. Ben, tu sais, à la deuxième journée, il y en a eu 10, mais pendant ce temps-là, t'as ton tireur de joint qui, lui, doit rentrer.
Puis lui, il faut qu'il livre la même cadence,
qui, lui, il faut qu'il livre la même cadence, mais après ça, t'as ton gars de peinture qui arrive aussi, là, qui, lui aussi, va falloir qu'il soit là. Fait que, tu sais, pendant le temps que ton tireur de joint, mais, tu sais, ton installateur est au quatrième étage, ben, tu sais, t'as ton tireur de joint au 4, puis t'as ton peintre au 3, puis, tu sais, la journée d'après, tout le monde augmente d'un étage, puis tout le monde grandit avec ça, là.
Tu sais, ces sous-traitants-là, ils ont tout d'autres chantiers, évidemment. Là, t'es pas tout seul. Fait que là, faut que tu parles beaucoup avec eux autres au début, là, parce que là, ça s'en vient. Oublie pas la date. Fait que quand ils rentrent, faut qu'il y ait les bons effectifs, parce que s'il y en a un qui échappe la roue est échappée pour tout le monde. Puis, tu sais, à un moment donné, le gars qui pose des armoires, dans son horaire, exemple, il y a 5 cuisines à poser par semaine. Puis là, plus on s'en va vers la finition, plus l'horaire squeeze. Mais lui, il peut pas dire, je vais en poser 5 par jour. Tu prenais le temps de le faire. Fait qu'il faut vraiment que le respect des horaires, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis le choix des sous-traitants, les gars de confiance, les compagnies de confiance, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Là. Je dis les gars, mais les compagnies de confiance. Là.
100%. Puis pendant la construction, arrive la location pré-vente. Là, tu sais, ouais. Toute la location pré-vente se fait aussi pendant la construction. Puis des fois, ça devient difficile de louer sur plan. Puis toi, Micah, qui fait de la location sur plan, comment que tes clients perçoivent ça? Est-ce qu'ils trouvent ça dur de dire, écoute, je vois pas l'éclairage, je vois pas la configuration?
C'est certain qu'il faut mettre des choses en place pour pouvoir montrer au futur locataire le projet du mieux possible. Fait que, ça prend les plans, ça prend des échantillons de matériaux. Souvent, on peut avoir un bureau de location. T'sais, on n'a pas tout le temps le luxe d'avoir un condo modèle qui est là. Donc, dans notre cas, c'est soit qu'on les reçoit à nos bureaux pour leur faire une présentation du projet. Des fois, Maxime peut avoir une roulotte où il reçoit des prospects, tout ça. Fait que, tu sais, faut mettre les installations en place pour pouvoir permettre aux gens de visualiser le plus possible. Mais c'est sûr que c'est un défi parce que l'immeuble, il n'est pas là, ils ne peuvent pas le voir. Là,
exact.
Puis, on parle de, tu sais, justement, location, etc. Arrive le financement final parce que là, tu sais, tu as eu ton bridge de construction au départ, etc. Puis, tu sais, il y a eu des périodes où ce que tu sais le neuf permettait pas le neuf mais le privé permettait de lever la construction, puis après ça on faisait un refinancement SCHL, on avait le T4. Il y a eu plusieurs changements dans les dernières années. Droit, pas le droit, droit, pas le droit. Fait que cette dynamique-là de financement est quand même complexe.
Oui, ça, la game du financement, quand tu commences, là, surtout, je me souviens, le premier prêt qu'on a signé, c'était un 12 logements, c'était 1 830 000 avec la banque Laurentienne. Tu signes ton premier prêt de construction à vie, tu sais, c'est comme, tu shakes en signant la lettre, là, puis tu comme, après ça, tu signes des prêts de 15, 20, 30 millions, tu t'en fous un petit peu parce que t'as tout passé à travers cette mécanique-là souvent. Actuellement, ce qu'on fait, puis ce qu'on n'a pas toujours fait, là, on finance directement avec la SCHL dans les prêts de construction. Fait qu'on signe un prêt de construction d'un an, on fait l'immeuble, stabilise un petit peu, puis après ça, le prêt tombe automatiquement sur le prêt long terme. Fait que ça, c'est un petit peu plus long au début, mais après ça, t'es tranquille, tu dors sur tes deux oreilles, toute la roue se fait tout seul, puis c'est géré d'avance. Fait que ça, c'est une formule qui est intéressante, mais à l'époque, on a fait beaucoup de projets avec prêteur privé, là, qui est financière Transcapital, qu'on peut les nommer, qui est un bon partenaire chez nous. On a toujours levé les constructions avec eux autres parce qu'on se finançait avec la SCHL. Le bémol un petit peu, c'est que dans cette époque-là qu'on a fait ça, la SCHL avait des délais de 4, 5 mois, 6 mois. Fait que ton 4, 5, 6 mois de plus à chaque fois, ben il coûte des sous, mais c'est un coup à prendre, on n'avait pas le choix.
Puis tu sais, ça fait partie de la croissance. Puis là arrive la livraison des immeubles. Les gens arrivent excités pour venir voir leur logement, leur camion de déménagement. Je peux pas croire que vous avez 100 camions de déménagement dans le stationnement. Là. Comment ça se passe, l'intégration? Cédule aussi, cadré au quart de tour. Tu sais, toi, tu rentres le premier, toi, tu rentres le deux, toi, tu rentres le trois, puis il y en a 5 par jour qui déménagent.
Tout dépendant des immeubles, mais quand je prends le Rosemary, là, c'était tous des blocs de 16. On avait deux entrées, une en avant, une en arrière. Fait que ça s'est quand même bien fait, mais généralement, on faisait des horaires. Tu laisses les gens souvent 3 à 4 heures d'une plage horaire, tu rentres ton stock. Avec les deux entrées, ça se faisait bien. Au niveau du Clémence, avec l'ascenseur qui n'était pas encore fonctionnel lors des déménagements, ça a été un petit peu plus un casse-tête, mais souvent, on a deux accès au bâtiment. Fait que les gens... Et souvent, ils payent des professionnels en 3 heures, le déménagement est fait. Fait qu'on les coordonne, mais ça se passe quand même assez bien. On n'a jamais eu vraiment à faire de très gros horaires ou de grosses listes. Ça se coordonne, mais les gens sont quand même... ils ont hâte de rentrer, mais ils sont conciliants, là, ça se passe bien.
Puis, tu sais, tout dépendamment des projets, puis tu sais, tout dépendamment de la volumétrie du projet, tu sais, un 12 logements, je veux pas dire que c'est un petit pain chaud, mais ça va se faire pas mal plus vite qu'un 100 logements. Là, on s'entend, là, parce que, oui, tous les corps de métier vont avoir le même travail à faire, mais pas le même volume à faire non plus. Fait que c'est pas les mêmes durées de projet non plus. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on entend, là, c'est que soyez prêts, ayez des cédules tight, faites des communications régulièrement avec vos fournisseurs, vos partenaires d'affaires pour être sûr que tout le monde soit au rendez-vous. Puis avec ça, ben, tu sais, t'as quand même une bonne gestion puis tu devrais arriver à la fin de chantier avec les bons délais. Exact. C'est un peu ça?
Exact. Puis c'est, tu sais, une date de livraison, là, que ce soit une maison neuve, que ce soit peu importe le projet, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que si tu respectes pas ton délai de livraison, ça marche pas. Le locataire, là, il vivra pas dans son camion de déménagement juillet à août parce que toi, t'as décidé de pas finir. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Ça prend des contingences d'horaire aussi parce que t'as des contingences monétaires dans les projets, mais ça prend une contingence d'horaire aussi. Là. Ça,
ah, il faut clair. Que tu mettes un buffer. Là. Pas le choix, c'est sûr. Écoute, Max, c'est quand même super intéressant d'avoir parlé des étapes générales de tes développements de projet. On tient à remercier Air Fortin de commanditer notre show. Air Fortin, il est là quand même depuis plusieurs années. Puis comme vous savez, la bulle immobilière, c'est tous les samedis à 11h, juste après le jargon, mais juste avant Zone parallèle.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
L'Alternative Radio. L'immobilière au 96.9 Alternative Radio.
On est de retour à la bulle immobilière. Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, mais encore mieux, vous avez le goût de venir nous rencontrer, venir vous parler en studio de votre histoire, de votre expertise. Vous êtes les bienvenus, c'est super simple. Contactez-moi directement sur mon courriel à info@jeanfrancoismorin.ca. Toujours avec Michael Faleschini et moi-même, Jean-François Morin, courtier immobilier. On est surtout avec Maxime Buteau, investisseur de chez Marmax, gestion immobilière Marmax. On a parlé de développement de terrain, on a parlé justement des différentes étapes pour développer un projet, développer un produit, parce qu'on offre un produit de location aussi. Puis tu sais, une des choses qui s'entend souvent, c'est que les sais, les projets ne se font pas seuls. Tu sais, on a souvent des partenaires d'affaires. Ça peut être des partenaires financiers. Ça peut être des partenaires, justement, des entrepreneurs, ton tireur de joint, les corps de métier qui sont importants dans les projets. Puis ça fait en sorte qu'il y a des relations d'affaires qui se développent sur le long terme. Mais, tu sais, une des choses que j'aimerais que tu puisses nous expliquer, c'est sans nécessairement rentrer dans le détail de chacun des deals, mais de quelle façon que tu peux structurer tes partenariats avec les gens ou, tu sais, c'est quoi la ligne directrice que tu donnes?
Bien, grosso modo, tout dépendant de la grosseur du projet. C'est quand tu fais un 6 ou un 12 logements versus un 100 logements, c'est assez similaire, mais pour ma part, actuellement, on est, mettons, le Clément, c'est un 120 logements. Ça prend une équipe d'investisseurs avec nous, c'est clair, parce que c'est des projets qui valent à peu près 50 millions. Fait que pour le Clémence, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on était en partenariat avec Ghislain Larochelle des Mots Faciles, qui a monté une banque d'investisseurs passifs. Une banque d'investisseurs de qualité, tous des gens qui connaissent l'immobilier, qui comprennent l'immobilier. Et puis, on a fait un montage financier au début de projet. On a dit, voici les coûts qu'on va avoir, valeur locative, valeur marchande, mise de fonds requise pour avoir un roulant dans le projet. Parce que c'est souvent plus du roulant dans le projet que de l'investissement, en réalité, dans le neuf. Là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le présente. Puis avec le réseau de Ghislain, pour le projet de Clémence, ça a été un franc succès là, au niveau de l'investissement passif.
Puis arrivent aussi les différentes ententes. Parce que là, tu sais, si vous avez un partnership, tu sais, moi puis Michael, on achète un immeuble ensemble, tu sais, ça peut être sensiblement simple, tu sais, Michael met 100% de l'argent, moi je mets...
j'aimerais que ça soit toi qui mette de l'argent.
Je suis d'accord avec ça.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi je mets zéro, mais tu sais, je m'occupe des opérations ou inversement, OK, on y va à l'inverse. Exact. Mais tu sais, des fois, ça devient plus simple. Puis tu sais, des partnerships de 50-50, ça se voit régulièrement. Puis tu sais, dans le fond, tu mets 100% de ta mise de fonds, tu as 50% du projet. Puis tu sais, mais qu'on arrive au refin ou à la revente, ben tu sais, le bénéfice net, tu sais, va être réparti selon les cotes-parts de tout le monde. Mais là, quand on arrive avec des partenariats, justement, pour des plus gros projets où il y a plusieurs investisseurs, ben tu sais, il peut avoir un pote de 50% qui, lui, va être répertorié sur la quantité d'argent qui va avoir été émis à l'intérieur. Tu sais, je donne un exemple, vous avez besoin de 10 millions de mise de fonds. Il y en a un qui a mis 100 000, ben lui, il a 100 000 sur 10 millions. L'autre, il a mis 2 millions, bien, il y a 2 millions sur le 10 millions. Tu sais, on s'entend que les chiffres sont assez simples à comprendre avec ce type de partenariat-là. Mais tu sais, de quelle façon vous arrivez à mieux définir c'est quoi les opérations, c'est quoi le coût par rapport à ça, le trouver le deal, on le paye comment, le gars, le profit justement parce que le gars, il a fait une gestion de chantier. On avait une estimation de travaux à 50 millions, mais finalement, on a topé 49 millions, il y a une économie d'un million. Mais de quelle façon qu'on répartit ces frais-là? Parce que tu sais, chacun amène sa part. Oui. La part financière est importante, mais les opérations et la gestion du projet ont quand même une grosse incidence sur le succès ou le non-succès du projet. Fait que comment tu vous gères ça à l'interne?
Bien, nous autres, à l'interne, on a plusieurs volets. On a le volet, bon, évidemment, développement, le volet construction, le volet louer l'immeuble au jour 1, puis le volet aussi l'opérante après de l'immeuble. Nous autres, on a établi des rôles prédéfinis avec des montants, des pourcentages, avec des conventions cadres qui disent, exemple, que Rénovation Marmax Inc. s'occupe de la construction. Exemple, des fois, tu as des contrats forfaits, des contrats à cost plus, mais avec des marges définies. Parce que, tu sais, au final, tout le monde doit être traité équitablement et non également. Ça, c'est super important parce que ça doit être vraiment équitable pour tout le monde avec l'implication qu'il met et l'impact dans le projet. Fait qu'on a réussi à définir avec les années, on a essayé plusieurs formules, mais la formule que l'investisseur passif, lui, il y a un apport à mettre, mais pour le reste du temps, ben il vient apprécier que le projet se lève, qu'il se loue, puis l'argent rentre. C'est ça le rôle. Nous, notre rôle, c'est vraiment de développer le projet. On prend un frais pour ça. Mais plus le projet est gros, plus le frais en pourcentage est petit, évidemment. Au niveau de la construction, notre entreprise de construction, qui n'est pas elle qui détient l'immeuble, doit faire un certain profit parce que la compagnie coûte des sous à opérer puis elle donne une espèce de garantie de qualité à la fin. Fait qu'on établit chacun des rôles avec des pourcentages. Puis après ça, ben, notre gestion immobilière s'occupe de la gestion après avec un montant fixe au niveau des revenus. Fait que c'est une mécanique qui est assez simple. C'est des conventions, on fait des conventions d'actionnaires, des conventions cadres qui sont bien définies, acceptées par tout le monde. Puis faut garder ça simple.
Dans le fond, tu offres vraiment, si on veut, un investissement clé en main aux investisseurs passifs. Du développement, de trouver l'opportunité, développer le terrain, gérer la construction, puis gérer le produit fini. Fait que tu as vraiment toute la gamme du développement du projet, donc de sorte que l'investisseur, comme tu disais, lui, il met son argent, profite du projet. Fait que...
Absolument. Puis en plus, on amène un saut de qualité parce qu'on reste actionnaire à la fin. Parce que ce qu'on voit aussi, là, je vais prendre un petit pas de côté, ce qu'on a vu, surtout en tout cas, dans le coin de Lévis, ce que j'ai bâti quand même pas mal, ce qu'on voyait des gens, des contracteurs, dire bon, on va s'associer pour un an, je bâtis, mais après ça, je m'en vais. On voit pas le même esprit de projet. Parce que nous autres, dans le fond, l'immeuble qu'on fait, on va rester propriétaire toute notre vie. On va mettre un saut de qualité dessus. Même les deux premiers projets, c'est le nom de mes filles.
Vous ne voulez pas les vendre.
Nous autres, on ne vend rien. Fait que, tu sais, comme le Rosemary, c'est le nom de ma fille, ma fille de 6 ans. Puis Clémence, notre autre projet, c'est le nom de mon autre fille. Fait que, on amène un saut de qualité. On livre un produit. Puis, comme tu dis, c'est un produit qui est vraiment clé en main. Qu'en réalité, qu'il n'y a aucun souci. Parce que nous, on est all-in là-dedans, dans tous les aspects.
Puis tu sais, en même temps, c'est que justement, en étant actionnaire du projet, c'est que tu veux t'assurer aussi de la qualité du produit. Parce que après ça, là, quand l'immeuble va chier, là, c'est qui va se faire caler? Le gars qui est sous le CA. Là. Oui. Puis tu sais, c'est toi qui vas faire partie de ceux-là. Fait que tu veux pas faire partie de cette personne-là. Fait que définitivement que d'avoir l'actionnariat avec l'entrepreneur devient quand même intéressant dans l'ensemble des projets. Fait que là, tu sais, moi, j'ai 4 enfants. Fait que tu es en train de me dire que de base, il faut que je réussisse à faire un minimum de 4 projets.
Tu n'as vraiment pas le choix. Puis il faut que tu commences aujourd'hui, hein, parce que la meilleure journée pour commencer à l'immobilier, c'est hier. La deuxième meilleure, c'est aujourd'hui.
Ouais. Puis après ça, il n'y en a pas de troisième meilleure. Là. C'était comme let's go, c'est aujourd'hui, ça se passe 100%. Puis, tu sais, avec les projets de partenariat que tu peux avoir aussi, tu as des close shotgun parce que vient qu'à un moment donné, des histoires d'horreur avec des partenariats, il y en a eu un puis un autre, il y a des gens qu'on veut s'associer, que les intentions sont bonnes, les objectifs sont alignés, un contexte familial peut changer, une séparation peut changer. Tu sais, il y a plein d'affaires externes que personne contrôle qui peut faire en sorte que, oups, quelqu'un a besoin de ses billes plus rapidement. Fait que, tu sais, vous avez mis en place des mécanismes aussi de rachat d'actions, des close shotguns, tu sais, pour faire en sorte que, justement, si jamais ça arrive, ben c'est déjà prévu. Là. C'est pas comme, ah, fuck, on n'avait pas pensé à celle-là. Là.
Non, au niveau de nos professionnels, au niveau du légal, on est très, très bien accompagnés. Nos conventions sont claires, sont complètes. On couvre tous les aspects. Puis on prend le temps de choisir aussi avec qui qu'on s'associe. Les gens qui sont là pour les bonnes raisons. Autant nous, en tant que contracteurs, que les investisseurs. Fait que nous, de notre côté, ça a toujours été un franc succès, mais toutes les clauses et dispositions sont mises en œuvre justement pour que s'il arrive quelque chose, c'est clair, c'est défini, ça va te coûter tant à sortir, exemple, on t'ajoute à temps. C'est vraiment clair et simple là, là-dessus.
Puis, tu sais, on parle de convention, de partenariat, c'est quand même intéressant, mais tu sais, il y a le contexte économique, il y a le contexte de construction. Les municipalités disent ouvertement, on va vous aider.
Puis tu sais,
dans le réel, la game est difficile. Là. La game est difficile. Là. Moi, ça fait 2 semaines que j'essaie d'avoir une rencontre avec la ville de Lévis. Puis c'était comme, oh non, pas tout de suite. Oh non, pas tout de suite. Oh non, pas tout de suite. Puis là, j'étais comme, crif, c'est à cause que c'est dur la rencontre. Là. On va être prêt, puis on va te démontrer qu'est-ce qu'on a à faire. Arrête de me retarder dans mon affaire. Puis là, tu sais, on n'a pas grand d'avancer. Puis là, mais que je sois prêt, là, ben, ça va prendre 2 semaines de plus encore. Là, fait que là, tu es en train de retarder mon projet. Moi, je suis en train de payer dans le vide.
Ça me fait penser à un exemple, Jeff. En ce moment, on a un 14 logements. On fait une demande d'ajout d'un 15e logement. Puis, tu sais, j'ai eu la réponse de la ville comme de quoi, ah, ben dans le fond, c'est les plans qu'on aurait, c'est le droit à 13 logements. Donc, là, ta demande pour un 15e logement, ça pourrait être finalement une reconnaissance de ton 14e. Fait que finalement, on pensait ajouter un 15e logement, mais la ville nous dit, non, t'es censé être à 13, mais tu sais... C'est un 14 à la ville depuis toujours, depuis aussi longtemps qu'on s'en souvient. Fait que là, il faut refaire plein de permis, plein de plans, tout ça. Fait que, encore une fois, on ne le fera pas. Est-ce que ça ne sera pas bénéfique pour nous dans ce cas-ci? Fait que,
c'est incroyable. Il faut que les villes aient le désir de... Puis tu sais, la réalité, c'est que tu as la vision politique qui est donnée devant tout le monde. Oui, effectivement, on veut grandir, on veut densifier, on veut amener les gens ici, on a un problème de logement. On veut augmenter ça, puis après ça, tu veux construire des logements, puis ils font comme non, il faut faire attention au voisin à côté, parce que là, si t'es trop proche, ben là, le voisin à côté va dire que ton immeuble est trop gros. Exact. Fait que là, tu sais, il y a ce défi-là qui est crifement difficile à arriver. Puis là, après ça, tu parles avec les intervenants sur place, puis tu sais, la première réponse que la municipalité va dire, c'est non. Tu sais, parce que c'est bien plus facile de dire non sur quelque chose que de prendre le temps de s'asseoir puis de l'analyser puis de checker qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tu sais, d'où maintenant les processus sont amenés différemment. Tu sais, les maquettes blanches sont proposées, l'architecte met son crayon, le directeur de développement des projets met son crayon sur le papier. Après ça, tu sais, l'orientation devient plus simple, mais tu sais, le plus simple pour eux, c'est long pour nous parce que tu sais nous autres on était prêts hier là, fait qu'aujourd'hui tu me retardes puis tu sais s'il faut que j'attende deux semaines c'est moi qui supporte pendant ce temps-là puis si le permis ça prend six mois de plus à avoir ben eux autres ils disent je comprends mais tu sais c'est comme ça que ça marche puis tu sais vis avec tes conséquences puis tes délais moi c'est là que je décroche je fais comme hey, come on là, c'est moi qui paye en arrière là puis eux autres ils disent ouais mais nous autres ça n'a pas d'impact pour nous non pas pour toi personnellement mais pour nous personnellement t'as un impact parce que si je suis pas capable de faire mon profit, je serais pas capable de t'en reconstruire un autre 12 tantôt pour aider justement à contribuer sur les valeurs foncières de ton de ta ville, de contribuer au niveau de mes paiements de taxes puis des services que je vais pouvoir te donner en argent puis que toi tu vas pouvoir redonner aux citoyens. Fait que tu sais c'est des fois deux poids deux mesures. Fait que tu sais c'est quoi que ça prend selon toi pour aider les promoteurs à justement combler les besoins en logement puis de faire en sorte de pouvoir faire grandir là.
Il y a plusieurs volets à ça, mais c'est sûr que le premier volet, les villes, il va falloir qu'ils mettent qu'ils mobilisent des équipes qui ont une réelle volonté que les projets se lèvent. T'sais, ils disent qu'on a des ressources, on a des équipes, ça, mais quand tu arrives à une ville, comme tu cibles la ville de Vieux, moi j'en ai une autre en tête, là, justement, je suis à Beauchâtel pour les nommer, il faut vraiment que les gens disent, bon, on a un promoteur qui s'en vient, on va tout faire pour l'aider, parce que eux autres, ils n'auront pas plus d'ouvrage au final. C'est juste de la prendre tout de suite puis de la gérer tout de suite. Ça, c'est un point qu'on s'en rend compte depuis 3-4 ans. Là, c'est que quand on arrive avec notre projet, il faudrait vraiment qu'on soit pris en charge là, puis go, on s'installe, quitte à faire une réunion, qu'on l'explique notre projet. C'est là qu'on s'en va, on respecte ton zonage, puis ça a l'avant. L'autre point aussi, c'est les fameux retours de taxes. Là. Les immeubles là, à 150 000 la porte dans le neuf, là, ça n'existe plus. Là, on bâtit à 300, 325, 350 000 la porte. Fait que, les retours de taxes, on n'en a pas. Puis l'autre jour, j'ai fait un calcul, j'ai pris 40 logements, je regarde les taxes que si j'avais pu récupérer 100 % des taxes, j'aurais eu du gaz de plus pour faire 70 portes de plus. Fait que, à un moment donné, il va falloir avoir des décisions, il va falloir qu'il y ait des politiciens au niveau fédéral, provincial, prendre des décisions pour nous aider à avoir ce retour de taxes-là. Là. C'est clair, là. C'est de l'argent qui va vraiment donner du gaz aux promoteurs. Parce qu'au final, quand on fait le développement d'un projet, on a juste des embûches. Tu sais, ça paraît bien, là, on développe un projet, je bâtis un logement, ça, c'est le bout qui paraît bien. Mais au final, on a juste des embûches du jour 1 jusqu'au jour qu'on commence à construire. Puis au niveau des délais de financement, là, la SCHL, c'est un petit peu ajusté parce qu'actuellement, il faut passer par la SCHL, mais les délais de financement, là, en haut de 30 jours, ça n'a pas de sens. Fait que si on réunit ces trois facteurs-là, une ville qui mobilise une équipe dès le jour 1 que tu fais ta demande, qui sont prêts à faire feu, qui ont une vision de ton quartier ou du terrain que tu vas avoir, tu as ton retour de taxes au complet à 100 % et des financements à 30 jours, c'est une recette qui va être assez efficace et gagnante.
Puis, tu sais, il faut que ça soit beaucoup plus grand que juste une volonté puis de le dire à la télévision. Tu sais, il faut qu'il y ait des actions qui soient prises, il faut qu'ils se commettent. Puis, tu sais, selon moi, tu sais, il faut qu'il y ait un désir aussi de vouloir passer à l'action. Sauf que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs paliers qui sont des paliers gouvernementaux que, tu sais, on change pas un paquebot, genre, du jour au lendemain, qui, lui, doit venir faire changer un plus petit paquebot juste en dessous, puis après ça, ta municipalité en dessous qui doit s'ajuster puis pivoter avec tout ça. Fait que c'est sûr que ça devient des enjeux puis des défis quand même importants. Puis, tu sais, une des choses qui va faire en sorte que vous allez réussir à être beaucoup plus performant dans la gestion de vos projets, tu l'as dit quasiment tout le long de l'entrevue, soyez tight dans vos planifications, soyez tight sur vos délais, soyez tight sur qu'est-ce que vous proposez comme projet, ayez un échéancier de base, ajustez-le pour que ton échéancier soit toujours le plus parfait possible. Sais-tu quoi, après ton 50e projet, il va y avoir une situation que tu vas vivre à ce moment-là, que tu vas mettre dans ton checklist une nouvelle étape de vérification, de recherche, pour être sûr que ton 51e projet, là, ben, tu vas le passer pareil, même si c'était absent, même si ça ne s'appliquait pas, au moins tu vas l'avoir mis dans ton checklist pour avoir des résultats. Fait que ça, c'est quand même des super bons conseils. Puis Maxime, pour des investisseurs qui sont déjà actifs, qui sont propriétaires d'immeubles sur le marché de la revente, puis qui ont un intérêt de vouloir pousser vers le neuf, quel genre de conseils tu pourrais donner à une équipe ou un gars comme ça?
Ben, c'est vraiment de s'associer avec des gens établis. Parce que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être un développeur, un promoteur. Je le souhaite parce que c'est un beau métier puis c'est vraiment intéressant aussi financièrement au niveau de l'investissement. Mais de se monter une équipe, tu sais, tout le monde, on entend toujours dire qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe. S'entourer d'une bonne équipe, ça arrive pas au jour 1, ça. T'sais, moi, en 2010, quand j'ai commencé, la bonne équipe, c'était moi et mon frère. En 2015, on avait des gens autour de nous. Puis en 2019, c'était ça. Puis en 2023, c'est ça. Mais s'associer avec des gens qui ont déjà une renommée, qui ont déjà un CV, ça enlève une couche de stress, évidemment. Puis, en équipe, tu vas beaucoup plus loin. Puis ça, les gens, là, moi, avant, j'étais plus du genre, gaz au fond, j'y vais tout seul, ça va aller vite. Oui, mais tu vas vraiment moins loin. Fait qu'en immobilier, surtout si vous voulez bâtir du neuf, vraiment monter une équipe avec des bons partenariats, avec des gens qui ont vraiment un CV, qui ont vraiment déjà livré quelque chose. Parce que des one-hit wonder, il y en a partout. Il y en a même en immobilier. Ah, je viens d'en faire un, je suis bon. Ça en prend plusieurs avant de dire qu'on est bon, là. Fait que c'est vraiment ça. Vraiment prendre le temps là, d'aller chercher les bons partenaires reconnus.
Je pense que c'est un excellent conseil. Maxime, merci beaucoup d'avoir été présent à l'émission La Bulle immobilière. Si jamais on a des questions ou on aimerait communiquer avec toi, est-ce que tu es à l'aise de donner genre une façon pour communiquer avec toi, les réseaux sociaux, courriel, téléphone ou quoi que ce soit?
Téléphone, il est toujours ouvert. 418-998-3806. Je réponds à tout le monde. Je vais prendre le temps. C'est sûr que des fois, dans la journée, on a un volume d'ouvrage, mais je réponds à tout le monde.
Puis, tu sais, qu'est-ce que vous avez pas dit? C'est que si vous avez un terrain à vendre, contactez-moi, puis je vais y proposer. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait qu'écoute, Maxime, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est super instructif, puis c'est grâce à des gars comme toi que la bulle immobilière existe. Fait qu'un grand merci d'avoir été présent. Bon samedi, tout le monde!
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton...